Un mot de sport avec du football.
Well, I love Radio Campus Orléans and I wish all of you a very good
Pas chier, attends, toi aussi. Non,
t'as raison. T'as raison.
La plus belle de toutes les Coupes du Monde.
Salut, c'est Lance Armstrong.
Voilà, je suis Bruno Gérard et j'écoute avec vous.
Pause, poésie. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans 88.3 pour le 75e numéro de Pause Poésie avec notre amie Marie Cabreval.
Bonjour.
C'est d'ailleurs à la suite d'une suggestion de Marie que nous allons aujourd'hui évoquer l'une des plus mystérieuses et importantes poètes américaines du 19e siècle, Emily Dickinson, 1830-1886. Discrète et secrète, Emily fut en effet quasiment ignorée de son vivant, elle qui écrivit près de 1800 poèmes qui ne furent édités qu'à son décès. Voyez-vous, ami poète encore inconnu, qui tentez de poser vos vers timidement sur le papier ou sur l'écran, sachez-le, si la célébrité ne vous accompagne pas de votre vivant, ce sera peut-être un fabuleux placement pour l'éternité, comme l'écrivait Léo Ferré, la lumière ne se fait que sur les tombes. Alors, entrons dans l'univers opaque de celle qui s'appelait elle-même, dans un de ses courriers, la nonne fantasque. Elle qui ne vécut sa vie qu'à l'ombre des vers qu'elle écrivait sur ses cahiers, dont elle parsemait, ici ou là, les courriers qu'elle envoyait à ses proches. Nous allons donc tenter de vous faire découvrir l'univers étonnant d'Emily Dickinson. Pour notre accompagnement musical, nous vous proposons des musiques américaines contemporaines d'Emily.
Thank you.
Vous venez d'entendre le Petroleum Court Dance interprété par le Claude Giroux Orchestra. Emily Elizabeth Dickinson est née à Amherst le 10 décembre 1830 dans une famille de classe moyenne aisée. Edward Dickinson, son père, est juge à Amherst, représentant à la Chambre des députés du Massachusetts, sénateur à la capitale de l'État, et pour finir, il sera représentant pour l'État du Massachusetts au Congrès de Washington. Le 6 mai 1828, il épouse Emily Norcross. Ils auront trois enfants, William Austin Dickinson, Emily Elizabeth et Lavinia Norcross Dickinson. Tout laisse penser qu'Emily est une petite fille sage qui suit avec attention l'école primaire. Son éducation est ambitieusement classique pour une enfant de l'époque victorienne. En effet, son père tient à ce que ses enfants soient bien éduqués et il suit leur progrès, même lorsqu'il est loin en raison de son travail. Le 7 septembre 1840, Emily et sa jeune sœur Lavinia entrent ensemble au collège d'Amherst. À la même époque, son père acquiert une maison sur North Pleasant Street. Emily commence très tôt à écrire. On estime que son premier texte date de 1858, inaugurant un de ses multiples cahiers qu'elle ne montrera que bien plus tard.
Sur cette mer enchantée, voguant en silence, ohé, pilote, ohé, connais-tu le rivage où ne gronde nulle vague, où la tempête a cessé? Dans l'ouest silencieux, voile sans nombre, au repos sur les mouillages. Vers ce lieu je te pilote, terre, ohé, éternité, enfin le port.
Vous venez d'entendre Campton Races dans une compilation de Favorite Camp Songs of the Civil War. Il faut bien le savoir qu'à cette époque, même les familles les plus aisées n'ont alors ni eau chaude ni salle de bain. Les tâches ménagères représentent donc une charge énorme pour les femmes. De ce fait, la préoccupation d'Émilie pour obtenir une bonne éducation constitue une espèce d'exception dans la société rurale de la Nouvelle-Angleterre de son époque. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un regard critique dans ses vers, qui sont secrets, je vous rappelle, sur le mysticisme dans lequel baigne cette société.
À l'abri dans leur chambre d'albâtre, insensible à l'aube, insensible au jour, reposent les membres dociles de la résurrection. Poutres de satin et toits de pierre, splendides vont les ans dans leur croissant. Au-dessus d'eux, les mondes creusent leur arc, et les firmaments voyagent, les diadèmes tombent, et les doges se rendent sans bruit, comme des points sur un disque de neige.
La chorale de l'église est pratiquement la seule expression artistique acceptée par la sévère religion puritaine partout présente. L'orthodoxie protestante de 1830 et des années suivantes considère les romans comme une littérature dissipée et interdit les jeux de cartes et la danse. Il n'existe pas plus de concerts de musique classique que de représentations théâtrales. Les réunions de femmes seules, autres que pour le thé quotidien entre voisines, ne sont pas tolérées non plus. En somme, les talibans n'ont rien inventé.
Ils m'ont enfermée dans la prose, comme lorsque j'étais une petite fille. Ils m'enfermaient dans le placard parce qu'ils me voulaient calme. Calme, s'ils avaient pu jeter un œil et espionner dans mon esprit, le visiter, ils auraient aussi bien pu enfermer un oiseau. Pour trahison à la fourrière.
Émilie passe plusieurs années à l'Amherst Academy et suit les cours d'anglais, de littérature classique, de latin, de botanique, de géologie, d'histoire, de philosophie mentale et d'arithmétique. Notons qu'elle s'absente plusieurs trimestres pour cause de maladie. Dès son plus jeune âge, Émilie est perturbée fortement, par la menace grandissante de la mort et plus spécialement de celle de ses proches.
Y aura-t-il pour de vrai un matin ? Y a-t-il ce qu'on appelle un jour ? Pourrais-je le voir des montagnes si j'étais aussi haute qu'elle ? A-t-il des pieds comme les nénuphars ? Des plumes comme un oiseau ? Nous vient-il de pays fabuleux dont je n'ai jamais ouï parler ? Oh, un savant ! Oh, un marin ! Oh, un sage venu des cieux ! Qu'il dise à une petite pèlerine où se trouve le lieu nommé Matin.
En 1845, un second grand réveil, une sorte de confession collective, a lieu à Amherst, et entraîne 46 confessions de foi parmi les proches d'Émilie. L'année suivante, elle écrit à un ami « Je n'ai jamais connu une paix et un bonheur aussi parfaits que pendant la courte période où je pensais avoir trouvé mon sauveur. » Elle poursuit en précisant que c'était son plus grand plaisir de communier avec Dieu le Très-Haut et de sentir qu'il écoutait mes prières. Ce sentiment ne dure pas. Émilie Dickinson ne fera jamais de déclaration de foi formelle et n'assistera au service religieux que durant quelques années.
La cendre est le seul secret. La mort, la seule dont on ne puisse tout apprendre dans son village natal. Personne n'a connu son père, n'a jamais été un enfant, n'a jamais eu de camarades ou de vieilles histoires. Laborieuse, laconique, ponctuelle, paisible, hardie comme un bondi, plus silencieuse qu'une flotte, bâtie comme un oiseau aussi. Le Christ vole le nid, un merle, puis un autre, passé en fraude à l'éternité.
The sun shines bright in the old Kentucky home. 'Tis summer, the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day. The young folks roll on the little cabin floor, all merry, all happy and bright. And by hard times comes a knocking at the door. Then my old Kentucky
Vous venez d'entendre My Old Kentucky Home du compositeur Stephen Foster. En 1847, Emily s'inscrit au séminaire du Mont Holyoke. Elle y reste seulement 10 mois. Les explications concernant la courte durée de son séjour sont nombreuses. Sa santé est fragile, la volonté de son père de l'avoir auprès de lui, sa rébellion contre la ferveur évangélique de l'école, la discipline de ses professeurs ou, plus simplement, le mal du pays. De retour chez elle, Emily Dickinson se consacre principalement aux activités domestiques. Alors qu'Emily a 18 ans, la famille Dickinson se lie d'amitié avec un jeune avoué, Benjamin Franklin Newton. Même si leur relation n'était probablement pas d'ordre sentimental, on note que Newton eut une influence formatrice et finalement rejoindra la longue cohorte d'hommes plus âgés auxquels Emily Dickinson fera référence en tant que tuteur, précepteur ou maître. Durant les années 1850, ou à partir des années 1850, Emily Dickinson entretient une relation intense et affectueuse avec Susan Gilbert. Jusqu'à la fin de leur relation, Emily lui enverra plus de 300 lettres, bien plus qu'à la plupart de tous ses correspondants, qui sont pourtant nombreux. Certains biographes pensent que les deux femmes ont en fait entretenu une relation amoureuse de l'adolescence jusqu'à la mort d'Emily.
Folle nuit si j'étais avec toi, de folle nuit serait notre luxure. Fut-il les vents pour un cœur au port, plus de boussole, plus de carte. Ramon dans l'Éden, ô la mer, si je pouvais amarrer ce soir en toi.
Jusqu'en 1855, Emily ne s'est jamais beaucoup éloignée d'Amherst. Au printemps de cette année-là, avec sa mère et sa sœur, elle entreprend ce qui sera son voyage le plus long et le plus lointain. Elle passe d'abord 3 semaines à Washington, où son père représente le Massachusetts au Congrès des États-Unis. Les 2 semaines suivantes, elle visite de la famille à Philadelphie. Là, Emily rencontre Charles Wadsworth, un célèbre pasteur de l'église presbytérienne d'Arch Street, avec lequel elle liera une amitié solide jusqu'au terme de son existence.
J'habite le possible, maison plus belle que la prose, aux croisées plus nombreuses, aux portes plus hautes. Des salles comme les cèdres imprenables par l'œil, pour toi impérissable, les combles du ciel. Pour visiteurs les plus beaux, mon occupation, ceci. Déplier tout grand mes doigts étroits pour cueillir le paradis.
Cotton and the corn and taters grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where the old darkest heart am long to go. There's where I labored so hard for old massa, day after day in a field of yellow corn. No place on earth do I I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born. Carry me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where this old dark is hard and long to go. Old darkey's life will pass away. Massa and Mrs. have long gone before me. Soon we will meet on that bright and golden shore. There we'll be happy and free from all sorrow. There's where we'll meet and we'll never part no more.
Vous venez d'entendre Carry Me Back to Old Virginia, qui date de 1873. Très tôt, la mère d'Emily est clouée au lit par de nombreuses maladies chroniques, ce qui fait que les responsabilités domestiques d'Emily deviennent de plus en plus lourdes, si bien qu'elle se confine à l'intérieur de la propriété familiale. Emily fait sien ce rôle et, trouvant agréable cette vie avec ses livres et dans la nature, continue à la vivre. Se retirant de plus en plus du monde extérieur, Emily commence en été 1858 ce qui sera son héritage littéraire. Révisant des poèmes qu'elle avait écrits auparavant, elle commence à recopier son travail au propre et assemble ainsi avec soin des livres manuscrits. Les 40 fascicules qu'elle crée de 1858 à 1865 contiendront finalement près de 800 poèmes. Nul ne connaissait l'existence de ces livres jusqu'à sa mort. À la fin des années 1850, les Dickinson se lient d'amitié avec Samuel Bowles, le propriétaire et éditeur en chef du Springfield Republican. Pendant cette période, Emily envoie à Samuel plus de 36 de lettres et près de 50 poèmes. Leur amitié est le terreau fertile de certains de ses écrits les plus intenses et Samuel Bowles publiera quelques-uns de ses poèmes dans son journal.
Nous rêvons, et c'est bien de rêver. L'éveil serait souffrance, mais puisque c'est le jeu qui nous tue, que par jeu nous hurlons. Quel mal! L'homme meurt extérieurement, c'est une vérité du sang, mais nous mourons dans un drame, et le drame est toujours vivant. Circonspecte, chacun secoue l'autre, et chacun ouvre les yeux, de peur que le fantasme ne soit faux, et que la blême surprise ne le fige en stèle de granit, avec juste une R, un nom et peut-être une phrase en égyptien. Rêver est plus prudent.
Les premières années de 1860 sont ses plus productives en tant qu'écrivaine. Ses proches la surnomment la reine recluse, la vierge amoureuse. Elle-même se surnomme la nonne fantasque. En avril 1862, Thomas Wentworth Higginson, un critique littéraire ancien pasteur, écrit un article dans lequel il prodigue des conseils pratiques à celles et ceux qui veulent être publiés. Recherchant un mentorat littéraire que personne près d'elle ne peut lui fournir, Emily lui envoie une lettre.
« Mr. Higginson, êtes-vous trop occupé pour me dire si mes vers sont vivants ? L'esprit est si proche lui-même, il ne peut voir distinctement et je n'ai personne à qui demander. » Si vous pensez qu'il respire et que vous avez le loisir de me le dire, j'en ressentirai une prompte gratitude. Si je suis dans l'erreur et que vous osiez me le dire, vous me feriez un honneur sincère. J'inclus mon nom, vous priant s'il vous plaît, monsieur, de me dire ce qui est vrai. Il n'est pas nécessaire de vous demander de ne pas me trahir, car l'honneur est son propre garant.
La lettre n'est pas signée. Mais Emily joint dans l'enveloppe son nom sur une carte et quatre de ses poèmes. Dans ses lettres à Higginson, Emily Dickinson aime à se décrire elle-même. « Je suis petite comme le roitelet et mes cheveux sont épais comme la bogue du châtaignier et mes yeux sont comme le sherry que laissent les invités. » Au fond du verre. Emily apprécie les conseils de Mr. Higginson. L'intérêt qu'il porte à son travail lui apporta certainement un important soutien moral et ils correspondront jusqu'à la mort d'Emily.
Le vent heurta comme un homme là, et moi, en haute, entrée, dis-je hardiment. Alors pénétra dedans ma résidence un visiteur rapide, ailé, à qui offrir un fauteuil. Eût été aussi folle qu'à l'air avancé un sofa. Nulle hausse pour l'assemblée, sa voix était comme l'envol d'innombrables colibris à la fois d'un sublime buisson. Sa physionomie, une houle, ses doigts sur son passage faisaient une musique, un trémolo d'air soufflé dans du verre. Voltigeant, il fit sa visite. Puis tel, un homme timide, heurta de nouveau tout agité, et ce fut la solitude.
Thank you.
Vous venez d'entendre le célèbre Old Black Joe, toujours texte de Stephen Foster, interprété par le Robert Shaw Choral. Après avoir fait preuve d'une intense productivité au début des années 60, Emily, en proie à des deuils personnels, manquant d'aide dans les travaux domestiques, écrit beaucoup moins. D'ailleurs, son comportement personnel commence à changer. Elle ne quitte plus la propriété qu'en cas de nécessité absolue. Et autour de 1867, commence à parler à ses visiteurs uniquement à travers une porte plutôt que face à face. Elle acquiert une notoriété locale. Certes, on la voit rarement et quand on la voit, elle est généralement vêtue de blanc. Peu d'autochtones qui échangèrent des messages avec elle durant les 15 dernières années de sa vie la virent en personne. Malgré sa réclusion physique, Emily est socialement active et s'exprime à travers de multiples notes et lettres. Lorsque des invités viennent à la propriété familiale, elle se retire, mais envoie des petits cadeaux sous forme de fleurs ou de poèmes.
La mort a donné un sens à l'objet sur quoi l'œil eût glissé. À moins qu'un être disparu tendrement nous supplie de penser devant les petits ouvrages au pastel ou en laine, c'est le dernier qu'on fait ses doigts, si diligent avant. Que le dé ne pèse trop lourd, que les poings ne cessent d'eux-mêmes, alors on l'a rangé parmi les poussières sur les étagères du placard. J'ai un livre offert par un ami dont le crayon, ici et là, a coché le passage qu'il aimait au repos, sont ses doigts. Aujourd'hui, je le lis sans le lire. Les larmes m'interrompent, effacent les gravures, à réparer hors de prix.
venez d'entendre.
J'étais pas prête. Tu vas trop vite, tu me regardes pas.
Je te regarde pas. Vous venez d'entendre la musique d'un des titres les plus célèbres de Stephen Foster, « Oh Susanna » de 1848. Certains de ses contemporains font remarquer assez perfidement que de son vivant, Emily était peut-être plus connue comme jardinière que comme poétesse. En effet, tout au long de sa vie, elle rassemble une collection de plantes séchées qui contient 424 spécimens qu'elle a cueillis, classés et étiquetés. Le 16 juin 1874, à Boston, le père d'Emily subit une attaque cérébrale et meurt. Pendant les obsèques, Emily se cantonne dans sa chambre, la porte légèrement ouverte. Un an plus tard, le 15 juin 1875, la mère d'Emily subit également une attaque qui la laisse paralysée d'un côté du corps et la fait souffrir de perte de mémoire. Otis Phillips Lord, un vieux juge siégeant à la Cour suprême judiciaire du Massachusetts, fait la connaissance d'Emily Dickinson, peut-être en 1872, peut-être en 1873. Et, devenu veuf, à la mort de sa femme, en 1877, son amitié avec Emily devint probablement une sorte de romance de vieillesse. Emily trouve en Lord une âme sœur, notamment en termes de goût littéraire commun. Ils aiment tous les deux William Shakespeare. Malheureusement, après avoir été gravement malade pendant de longues années, cet ami aimant s'éteint en mars 1884.
Je ne puis vivre avec toi. Ce serait la vie. Et la vie est là-bas, derrière l'armoire, dont le fossoyeur tient la clé, rangeant notre vie, sa porcelaine, comme une tasse rejetée par la ménagère, désuète ou cassée. Un Sèvres plus neuf plaît. Les vieilles tasses se fendent. Je ne pourrai mourir avec toi, car l'un doit attendre pour fermer les yeux de l'autre. Tu ne pourrais le faire. Et moi ? Pourrais-je rester là et te voir te glacer sans avoir ma part de glace, privilège de la mort? Et je ne pourrais ressusciter avec toi, car ton visage effacerait celui de Jésus. Cette grâce nouvelle brillerait laide et étrangère pour mes yeux regrettant leur demeure, si tu n'étais pas là, luisant près de moi. On ne jugerait comment? Toi, tu servais le ciel, n'est-ce pas? Ou cherchais à le faire? Moi, je ne pouvais pas. Car tu rassasiais ma vue et je n'avais plus Dieu, pour une perfection sordide comme le paradis. Et si tu étais perdu, je le serais, quand bien même mon nom fit le plus grand bruit dans la renommée céleste. Et si tu étais sauvé et que je fusse condamné là où tu ne serais point, cela même pour moi serait l'enfer. Donc nous devons rester séparés. Toi là-bas, moi ici, avec juste la porte entrouverte que sont les océans et la prière, et cette pâle consolation, le désespoir.
Seems to hallow us there. with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. There's no place like home. An exile from home, splendor dazzles in vain. Oh, give me my lowly thatched cottage again. The birds singing gaily that came at my call, give me them with a peace of mind dearer than all. Home, home, sweet, sweet home. There's no place like home. There's no place like home.
Home Sweet Home, célèbre chanson de 1823 interprétée par le Street Music Singer. Alors que les morts se succèdent, Emily Dickinson voit son monde s'effondrer. À l'automne 1884, elle écrit que « les décès ont été trop importants pour moi, et avant que mon cœur ait pu se remettre de l'un, un autre survenait. » Le 15 mai 1886, à son tour, Emily meurt à l'âge de 55 ans. Malgré l'écriture prolifique d'Emily Dickinson, moins d'une douzaine de ses poèmes furent publiés de son vivant. Entre 1858 et 1868, quelques poèmes ont été imprimés, comme on l'a dit, dans le Springfield Republican de Samuel Bowles. Après que sa sœur Lavinia a découvert les recueils de près de 1800 poèmes, 1789 exactement. Le premier volume de ses œuvres est publié 4 ans après sa mort. Et depuis 1890, Emily Dickinson n'a jamais cessé d'être éditée. Voilà donc le destin curieux de cette femme qui a vécu une existence restreinte, presque atrophiée, mais dont les vers, inconnus de son temps, sont maintenant l'objet d'éditions, de rééditions, d'analyses brillantes, de multiples exégètes, de cours universitaires, de thèses, de biopics en feuilleton télévisé. La gloire poétique, bien souvent, n'appartient pas au présent de l'auteur. N'est-ce pas ? Nerval, Baudelaire, Lautréamont et tant d'autrices inconnues ou insoupçonnées à l'image d'Emily Dickinson. C'est ainsi que l'on peut dire que les vers dépassent le temps et nous offrent, à titre posthume, l'éternité de la gloire. Je vous laisse réfléchir à ces considérations poético-philosophiques et vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission de Pause Poésie. Toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 et avec en compagnie de Marie Cabreval.
Au revoir.
La musique américaine des années 1860 nous accompagne pour finir. Vous allez entendre Yellow Rose of Texas de 1858 par Fred Feil. À bientôt.
Derrière un micro.
Listen, it's a lot of fun.
Alors, je peux commencer?
Ok, donc je recommence.
Oui, on fait des nouveaux tests.
Ah, c'est bien.
Radio Campus
88.3 FM.
Is your radio on?
Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
On pourrait dire ça.
Sais-tu exactement
hey, objet de consommation tous dans la bus, des vite dit. La tête dans une tablette ça les amuse, des wifi. J'étais pas à la page, t'es juste un gus primitif. Perdu dans la matrice de Morpheus Trinity. Ce monde m'a trop saoulé, laisse-moi que je décuve. Les mecs font d'agon fait pour être au même stade qu'Hercule. Ça veut le truc de Ned Stark, y'a pas de mec stable. Et ça se prend en photo pour Claire, garde des cuples. On mène des vies virtuelles entre les spams. Les pubs sur les réseaux c'est la bataille pour des likes, des vues, des stars, des culs, des stories. Snap de gars montrant des spars, des stups. La vie virtuelle c'est que du vent, le but c'est d'éviter ce courant d'air. J'ai cette ouverture d'esprit, mais la technologie nous renferme. Ils veulent me la fermer, j'en ai trop dit dans le son. Se font berner, mènent des fausses vies dans le fond. Ce que tu vis en 3D, moi je le rappe en 1D. Pour ça que mon son prend une autre dimension. Bienvenue dans le futur. Si tu veux vivre avec ton temps, t'es servi. Bienvenue dans le futur. S'ils te tendent la perche, c'est juste pour prendre des selfies. Je me tape un trip en kickant. Big up à ceux qui m'admirent en cliquant. Mais dans 10 ans, que sera notre monde? Plus de nos prénoms, il restera plus que des identifiants. Objet de consommation, tous dans la bus, c'est vite dit. On est tous dépendants de ces virus qui dirigent. T'es pas à la page, t'es juste un gus primitif. Perdu dans la matrice de Morpheus Trinity. On n'est plus des hommes, mais des dérivés de la machine. La technologie vote l'or, la réalité n'a pas de prix. Plongé dans des smartphones, à esquiver sa part de vie. Faut que tu ouvres les yeux, tu seras délivré d'un bad trip. On est tous prisonniers, hypnotisés, ça fait flipper pour exister. Es-tu prêt à défier la matrice? On n'est plus des hommes, mais des dérivés de la machine. La technologie vote l'or, la réalité n'a pas de prix. Plongé dans des smartphones, à esquiver sa part de vie. Faut que tu ouvres les yeux, tu seras délivré d'un bad trip. On est tous prisonniers, hypnotisés, ça fait flipper pour exister. Es-tu prêt à défier la matrice?
Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade.
Vivons heureux, vivons cachés, tu te crois distrait mais certaines traces t'ont trahi. Tu parles d'intimité, ils t'ont cramé. Suffit d'une carte bancaire, d'un compte Facebook et ils retracent toute ta vie. Ils parlent d'évolution, mais rangez vos mythos. Maintenant que c'est des traces qui remplacent ces vos psychones. La technologie est la grande guerre drogue qui trône, qui change la face du monde à base de grandes émoticônes. Ça dérape, gros, c'est le choc. Après Tinder, bientôt ça paiera pour guédra dans des shops. Tu fumeras tes doigts quand t'as 10 balles sur tes clubs. Bientôt l'État installera des caméras dans tes shots. Un nouvel air est prévu. Toutes les personnes branchées ont éteint sur tes marmots. Bienvenue dans la matrice, tu passes ta vie à rechercher l'élu. T'emballes pas qu'à dans notre monde, ce sont des gâteaux. Jeunesse robotisée, enfermée dans sa bulle. Prisonnier de la mode, que plus rien ne sauvera. Matérialiste qui rêve de baigner dans la thune. Dans un monde formaté qui paraît moins humain que Sophia. Je suis déconnecté de ce monde. J'ai esquivé le virus, mais dans ta tête, certains se propagent. Je rêve de m'évader deux secondes. Pour moi c'est le futur, pour vous c'est encore tout un programme. On n'est plus des hommes, mais des dérivés de la machine. La technologie vote l'or, la réalité n'a pas de prix. Plongé dans des smartphones, à esquiver sa part de vie. Faut que tu ouvres les yeux, tu seras délivré d'un bad trip. On est tous prisonniers, hypnotisés, ça fait flipper pour exister. Es-tu prêt à défier la matrice? On n'est plus des hommes, mais des dérivés de la machine. La technologie vote l'or, la réalité n'a pas de prix. Plongé dans des smartphones, à esquiver sa part de vie. Faut que tu ouvres les yeux, tu seras délivré d'un bad trip. On est tous prisonniers, hypnotisés, ça fait flipper pour exister. Es-tu prêt à défier la matrice?
La matrice est universelle, elle est omniprésente. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre.